La revue de presse. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous nous parlez de farine ce matin.
Oui, que Svetlana a récupéré dans les placards de sa cuisine. De la farine qu'elle s'en va répandre sur le sol en couches épaisses. Là, dans le couloir, celui qui mène au toit de son immeuble. Pas peu fière de son stratagème, la dame septuagénaire avec sa poudre blanche efficace pour repérer les pas éventuels d'un parachutiste russe qui pourrait s'aventurer dans le bâtiment. Nous sommes à Kremenchuk, dans le centre de l'Ukraine et dans les pages du Parisien aujourd'hui en France, qui vous raconte cette résistance par le système D. Et des Svetlana, il y en a plein, manifestement, qui plantent des clous dans les clôtures des maisons, mais des clous la pointe vers le haut. Ou bien qui vont sur les routes, démonter, changer le sens des panneaux de signalisation, histoire de perdre un peu plus les blindés de l'ennemi égarés dans la grande plaine. « Soyez créatifs », a lancé l'état-major de l'armée. « Utilisez toutes les méthodes possibles de combat ». Sur le site du Monde, récit de Rémi Hourdan, où l'on dresse des barricades contre les tanks, les obliger à passer par les champs, les forêts, creuser des pièges au milieu des champs, mettre le feu au cœur des forêts. Se méfier également des agents infiltrés. Attention, certains ont pris des uniformes de la police ukrainienne. Il y a aussi ces redoutables combattants tchétchènes arrêtés dans une voiture maquillée en véhicule de presse avec un sigle TV collé sur le capot. Pendant ce temps, à Kiev, des jeunes et des vieux prennent les armes. Des civils ou des vétérans suivis par Libération qui nous apprend que 18 000 Kalachnikov ont été distribués en quelques jours. Je ne sais pas m'en servir, mais c'est pas grave. On m'apprendra, vous dit Nazar, 29 ans, il arrive de Pologne. Je n'ai pas envie de tuer, pas même un soldat russe, mais s'il le faut, je n'hésiterai pas. Je n'ai pas peur. Bravache, comme Yuri, l'ouvrier en bâtiment, qui voit Moscou comme un vieil ours, avec de grosses pattes, sauf qu'elles sont usées, les griffes élimées. Ça fait 4 jours que nous résistons, dit-il, 4 jours. En face, les soldats ne savent pas pourquoi ils se battent, nous on sait, pour notre liberté, et nous n'avons pas le choix. Se pourrait-il que le tsar Poutine ait sous-estimé ses adversaires, s'interroge le Figaro. Non seulement les Ukrainiens, mais les Européens. L'Europe qui fait front, titre les Échos. C'est la force des démocraties, affirme El País en Espagne. Dans une guerre qui va durer plusieurs années, prédit la chef de la diplomatie britannique. Si elle se réfère à l'onde de choc qui s'amorce, alors oui, elle a raison, conclut le Figaro.
Jean-Philippe, on parle aussi de solidarité.
Et du genre d'action qui vous réconcilie avec la nature humaine. C'est dans le Progrès ce matin, le long périple de monsieur André Boucher, infirmier anesthésiste de métier, plutôt humble et discret de caractère. Cela n'a pas empêché de parcourir 1500 kilomètres pour accueillir ses amis ukrainiens, la famille de Vadim, jeune trentenaire qu'il considère comme son propre fils. Ça fait longtemps que ces deux-là se connaissent, depuis plus de 20 ans, à l'époque où André recevait chez lui, chaque été dans sa maison de Montbrison dans la Loire, ce gamin venu de la région de Tchernobyl. Des liens forts se sont créés entre les deux familles. André et son épouse ont même été invités au mariage de Vadim en Ukraine. Alors, quand il a appris le déclenchement de la guerre, André n'a pas réfléchi. Il a sauté dans la voiture, traversé une tempête de neige en Slovénie, fait une courte pause en Hongrie, avant d'atteindre la frontière en Roumanie. Après des heures d'attente au milieu d'une foule de réfugiés, il a fini par retrouver la femme de Vadim et leur enfant, venus avec une amie et son garçon. Tout ce petit monde est reparti vers la France, mais sans Vadim, puisque Vadim est un homme et qu'il n'a plus le droit de quitter le territoire. Et l'on en revient, encore et toujours, au courage des Ukrainiens. Le père de Aliona, entre autres. Aliona, jeune femme installée en Gironde et qui témoigne dans les colonnes de Sud-Ouest. Parce que ses parents, eux aussi, sont restés là-bas et parce qu'elle en est certaine, son père va vouloir se comporter en héros. Aliona lui parle, quand les communications le permettent. Lui, il dit qu'il n'a plus rien à perdre. Avant-hier, le père d'Aliona a juste demandé s'il pouvait voir ses petits-enfants en vidéo.
Et puis, il y a aussi quelques sourires dans le journal.
Oui, alors loin de la guerre et du tumulte du monde, loin de tout, à vrai dire. Au pied du mont Mézin, sud-est du Massif Central, dans les pages de la République du Centre et dans la maison de Simone Chanut, 92 ans, qui vous accueille derrière les murs de sa bâtisse aux lourdes pierres, au bout d'une route sinueuse et fatiguée, là où ses ancêtres ont toujours vécu. Et c'est vrai qu'elle a un joli sourire, Simone, apaisée quand elle regarde au loin. Elle vous raconte l'école des sœurs quand elle était petite, l'école des sœurs qui n'existe plus, mais qui se trouvait là, en bas du village. Il lui fallait bien une demi-heure à pied à travers les champs. Elle restait en pension l'hiver à cause de la neige et du vent. Mais bon, si le journal est venu la voir, c'est pour lui demander si elle suit un peu l'actualité en général et la présidentielle en particulier. Oui, oui, il y a une élection. D'ailleurs, je crois que c'est pour bientôt. Alors, effectivement, Simone regarde les infos à la télé le soir entre questions pour un champion et la météo. Même qu'elle trouve qu'il y en a un paquet de gens qui se présentent cette année. Et tiens, à propos, Simone ira bien voter tant qu'elle en aura la force. D'ailleurs, elle a toujours voté, dit-elle avant d'éteindre le poste. Elle s'en va rejoindre ses moutons, ses chiens, ses chats et ses poules. Elle a bien raison, Simone. Et puisqu'il s'agit d'une revue de presse, je suis obligé de terminer avec lui. Patrick Mandry, ce matin, dans le Bien Public. Patrick, livreur de journaux, qui vient de faire son ultime tournée. Et oui, c'est l'heure de la retraite qui a sonné. Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, levé à 2h du matin, 6 jours sur 7. Et attention les amis, Patrick a fait le calcul. Mmh. Au total, il a distribué quelques 3 millions d'exemplaires du Bien Public. Oui, parcouru 800 000 kilomètres environ, je dis respect. D'ailleurs, les lecteurs lui ont laissé un petit mot gentil sur leur boîte aux lettres. Alors, vive le papier. Et tiens, j'en profite pour remercier Mansour. Lui aussi se réveille très très tôt.
Bien sûr.
Mansour, c'est le monsieur qui nous livre les journaux ici à France Inter.
Merci pour cette dédicace, Jean-Philippe Ballas et la revue de presse.
France Inter.